Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Comment gérer la période après un marathon ou un gros défi? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamsters Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Cette semaine, je vous propose une question qui m'avait été posée par Xavier juste après son marathon. Voici donc sa question. Comment bien gérer la pause sans se relâcher complètement après un marathon? Parce que j'avoue, ça m'a vraiment bien vidé ce défi. Je ne sais pas si c'est le contre-coup, mais le canapé a du velcro depuis dimanche. Alors je dois le dire, c'est une question qui m'est très souvent posée, c'est pour ça que je l'ai insérée dans cet épisode du samedi. Je vous propose maintenant ma réponse. Allez, c'est parti. L'idée en fait, c'est que c'est normal que tu sois vidé après un marathon, et après un défi n'importe lequel, tout simplement parce que tu as mis beaucoup d'énergie physique et mentale dans la préparation de cette course et dans la réalisation de cette course. Et notamment, ce que je rappelle toujours, c'est que les endorphines, on considère qu'on a une accoutumance aux endorphines, donc les endorphines sont produites par l'effort, les endorphines ce sont des hormones, ces hormones-là, en fait, elles ont été probablement développées par le corps pour que le corps, en fait, il accepte une certaine seuil d'effort. Je rappelle toujours la notion des marcheurs-coureurs, nos ancêtres, des ancêtres qui sont, certains vivaient il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les marcheurs-coureurs, comme ils devaient faire des grandes distances pour chasser ou pour aller chercher de l'eau ou je ne sais pas quoi, mais surtout pour chasser. L'humain a une capacité qui est incroyable. C'est, je rappelle quand même, en ces périodes de forte chaleur, que l'humain est quasiment l'un des seuls animaux, peut-être. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, c'est l'animal qui a la transpiration la plus adaptée, contrairement au guépard qui ne transpire pas. La différence, elle est sensible, hein, c'est que si vous faites courir un marathon à un guépard, il explose, parce qu'il est en surchauffe, donc il meurt. Si vous faites courir un marathon à un humain, bah, il est capable de le courir, il est capable de faire des beaucoup plus longues distances. Mais pour que l'homme soit capable de faire ça, donc la nature a développé la transpiration, elle a aussi développé des hormones qui permettent en fait d'apporter un peu une dose de plaisir et qui va gommer en fait la partie douleur. Et le truc, douleur et petites blessures, contractures, etc. Le problème de ça, en fait, c'est qu'on est juste accro aux hormones à cette hormone de l'endorphine à partir de 5 à 7 heures d'effort par semaine. Et que si après ta course t'es bien vidé, tu t'arrêtes de faire du sport, d'un coup tu te retrouves en manque. Le deuxième problème, c'est que tu te retrouves aussi sans objectif. Si t'as pas défini un objectif d'enchaînement des objectifs, eh ben tu te retrouves te dire j'ai mis beaucoup d'efforts pour devenir marathonien, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de préparation dans la tête, vraiment au sens mental. Tu as mis beaucoup d'efforts mentaux sur cette préparation. Donc c'est un point qui est important. Représente-toi, Xavier, l'intensité de la préparation que tu as faite, l'intensité, mais pas que physique, l'intensité mentale en fait. Dire tout ce que tu as placé dans les enjeux de cette course. Moi je me rappelle par exemple sur mon marathon de Paris, donc avant le projet c'est de faire un marathon pour mes 42 ans, si possible le jour de mes 42 ans. Je me blesse avant Lyon, donc je reporte mes efforts sur le marathon de Paris en ayant un stress de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas me blesser? Je me tapais tous les jours sur les tibias parce que j'avais peur que la périostite revienne avec le volume d'effort qui remontait, etc. Et donc, il y a un moment donné, quand j'arrive au départ du marathon de Paris, je suis content d'être là, je suis heureux, j'ai les larmes qui montent aux yeux avant même le départ, qui montrent en fait à quel point le stress d'être dans cette préparation, en fait, et dans l'enjeu que j'avais mis dans ma tête là-dessus, était super important. Et en plus, j'y rajoute le côté d'égo, faut que je finisse dans les 3:30, par rapport au temps que j'avais fait sur semi, on promettait 3:30 sur Instagram. Alors on m'avait dit ah bah tiens, tu peux faire un 3:30 et tout, tu peux changer ces temps-là sur les commentaires que j'ai eu par rapport au podcast à l'époque. Et donc j'ai mis beaucoup d'enjeux dans l'histoire quand même, beaucoup d'enjeux. Et à un moment donné, quand t'as fini, t'as plus rien. C'est fini. C'est-à-dire que t'as plus d'entraînement, t'as plus d'objectif, t'as plus tant d'enjeux. Tu relâches tout. Et donc forcément, le canapé, il t'attire. et il t'aspire, en fait. Alors, t'as un moyen pour moi, c'est un bon truc aussi de dire, faire un autre sport, retrouver sur des sports, par exemple, tu dis, je vais retourner voir les potes du badminton, c'est une très bonne idée, refaire une activité, moi je dirais, t'as deux trucs, c'est que d'une part, tu peux laisser reposer ton corps un petit peu sur le plan, tu peux peut-être plutôt partir sur de la marche, du vélo si t'en as un, ou des choses comme ça, mais en ce moment, tu peux aller marcher, et moi c'est ce que j'avais fait, beaucoup après le marathon de Paris. J'étais parti, j'allais marcher un peu tous les jours, et un peu. Des fois, j'allais marcher une heure et demie, et sur les chemins où je courais, mais j'allais en marchant. Alors forcément, en faisant pas la même distance, en allant moins loin et tout, mais j'ai des souvenirs où j'allais marcher tranquillement dans la forêt et tout, c'était plutôt cool. Et tu vois, où je vais passer en courant tout à l'heure, donc c'est à peu près les mêmes chemins, mais où là, le but du jeu, c'était vraiment d'être dans le plaisir juste de faire fonctionner le corps, de marcher. Parce que je sais aussi que j'ai besoin de cette activité-là, que si je marche pas, je suis pas bien. Si j'ai pas le minimum d'activité, je suis pas bien. Et le passé récent me l'a montré l'an dernier, c'est pour ça que je cours tous les jours aussi. Et donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est de dire, oui, tu peux aller retrouver voir des potes, tu peux retrouver faire des activités dans lesquelles finalement tu vas retrouver peut-être quelque chose, un plaisir qui est moins solitaire et peut-être plus de groupe si tu as besoin. Si par exemple, tu as trouvé que la préparation marathon, t'isoler un peu parce que t'étais le seul à courir ton marathon, que sur les sorties longues, par exemple, t'étais tout seul, sur les entraînements, t'étais tout seul, etc. Et que t'aimes bien, que t'es un peu un être social, c'est-à-dire un petit peu l'inverse de moi, mais c'était un peu un être social, t'as besoin de cette présence, etc. Tu retournes voir les potes, tu peux faire d'autres activités et tout avec eux, ou peut-être si t'avais... Parce que ça peut être le cas, par exemple, moi je sais sur les plans d'entraînement, quand je courais, quand je préparais le marathon d'Albi, par exemple, en semaine je courais avec le club et puis le week-end je courais tout seul. Mais si j'avais voulu courir en groupe par exemple le week-end, il fallait trouver d'autres personnes qui préparaient un marathon aussi pour qu'on ait les entraînements compatibles en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il faut accélérer, que tout le monde puisse avoir à peu près les mêmes allures, etc. Et donc souvent en fait ce type de préparation il a tendance à isoler. Mais alors que quand tu fais juste un footing, tu peux faire un footing aux différentes allures où tout le monde, où finalement le plus rapide se cale sur la vitesse du plus lent. Et donc dans ce cas-là, si tu as ce côté-là, tu peux te dire je vais refaire ça, retrouver ce genre d'activité. Donc voilà, moi peu quand je ferai. Et puis le troisième partie, c'est de te donner un nouvel objectif. En fait, la réalité, c'est que tu aurais peut-être déjà dû te donner l'objectif, avant même d'avoir couru ton marathon, te dire une fois que j'ai couru mon marathon, qu'est-ce que je fais ensuite. C'est dur de se projeter quand c'est des objectifs qui sont importants, etc. comme ça. Mais en fait, tu le sauras pour le prochain objectif que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, te dire maintenant j'ai un objectif. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme, long terme. Et en fait, ton objectif long terme, par exemple de marathon, tu disais, par exemple, à 2 ans, je veux courir un marathon, donc c'est du long terme, devient petit à petit un moyen terme et devient petit à petit un court terme. Et quand il est en court terme, tu dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur le long terme ensuite? Qu'est-ce que j'ai envie de préparer ensuite? Alors bien sûr, tu ne le sais pas forcément. Si tu veux passer sur l'ultra, si tu veux rester sur du marathon, si tu veux faire autre chose, etc. Mais tu peux avoir une idée. Et en tout cas, c'est pas mal d'essayer de se projeter un petit peu, de se dire, une fois que j'ai fait ça, j'aimerais bien faire ensuite un petit peu ça, préparer un peu ça. Et le risque, en fait, de cette période post-marathon, c'est de rester trop longtemps sans aucun objectif et finalement de tomber dans un... tu sais pas trop pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu cours, donc tu perds la motivation, en fait. Et ça, c'est l'un des risques qui est pour moi assez important. Voilà, cet épisode se termine. Si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amstars Running Club et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés et questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Ciao ciao mes champions et mes champions.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.